Une saison en librairie, l'émission qui va à la rencontre des passeurs de livres, animée par Louise Le Faux, tous les lundis de 17h à 18h, rediffusion les mardis à 11h sur Radio Montpaïs.
Nous voici à L'Autre Rive, librairie généraliste indépendante située sur la rive gauche de Toulouse, entre les métros Saint-Cyprien et Pas-de-Doie. Je viens d'arriver au numéro 24 de l'avenue Étienne Billière et je suis en compagnie de Céline. Merci Céline de nous accueillir à L'Autre Rive.
Bonjour, avec plaisir.
Alors Céline, il faut quand même qu'on précise, tu n'es pas la seule à travailler à L'Autre Rive. Tu es la représentante un peu pour l'été. Et donc, qui sont les autres libraires ?
Alors ici, il y a Aurélie Jardel, qui est la gérante de la librairie, et François-Xavier Schmitt, qui est le créateur de la librairie et qui était parti pour 3 ans à New York pour gérer une librairie francophone ouverte par l'ambassade et qui revient cet été.
Voilà, et c'est vrai qu'il y a 3 ans, tous les libraires qui regardaient les postes possibles et imaginables un peu partout avaient vu ce fameux poste à New York pour la librairie Albertine, du nom du personnage de Proust à la recherche du temps perdu. Et donc du coup, c'est lui qui est parti et il revient du coup après 3 ans.
Voilà, c'est ça. Il revient parmi nous. Donc on va être à 3 dans l'équipe. Voilà, ça va être une nouvelle aventure à 3 parce que jusqu'à présent, ils ont travaillé pendant 6 ans à 2, François-Xavier et Aurélie. Donc là, on va commencer à partir de septembre une nouvelle aventure à 3.
Et donc pour l'histoire de cette librairie, du coup, au départ, il y avait François-Xavier et Aurélie.
Alors au départ, François-Xavier a ouvert cette librairie qui n'existait pas ici, ce n'était pas du tout une librairie avant. Il a ouvert en 2008 et dès le début, Aurélie l'a rejoint dans l'aventure. Donc ils ont été deux dès le départ de la librairie en fait.
Et dès le début, du coup, l'idée, c'était de faire une librairie généraliste sur la rive gauche de Toulouse.
Oui, sur la rive gauche. Avant, il y avait une librairie à la Pas-de-Doie, mais il y a quelques années déjà, qui n'existe plus depuis assez longtemps. Donc, il n'y avait plus de librairie sur cette partie de Toulouse. Elles sont plus toutes centralisées quand même dans le centre-ville. Et du coup, il y avait une opportunité. François-Xavier s'est dit que c'était le bon endroit pour ouvrir une librairie et du coup d'être généraliste parce qu'il n'y avait pas d'autres offres. Donc, il fallait pouvoir répondre à la plus grande offre possible au niveau de la clientèle, en fait. Ouais.
Et du coup, cette clientèle, c'est une clientèle de quartier. La librairie, elle a vraiment le côté petit commerce de proximité.
Oui. Et puis surtout à Saint-Cyprien qui... C'est un village un peu Saint-Cyp. Il y a un marché tous les jours, il y a encore plein de commerces de proximité, il y a un poissonnier, il n'y en a plus beaucoup à Toulouse. Il y a un poissonnier à Toulouse, à Saint-Cyprien, et c'est vrai que ça donne une vie vraiment très dynamique dans ce quartier. Les gens sortent faire leurs courses tous les jours, et ils s'arrêtent ici comme dans d'autres commerces. Voilà, on est... Ouais, c'est une clientèle très fidèle en plus. On a des gens qui sont là depuis le début de la librairie, qui nous suivent depuis le début, qui sont là à chaque rencontre, qui sont ravis qu'on se soit installé ici et puis qui nous soutiennent vraiment. Ouais. Donc ça c'est super. Ouais.
Parce que du coup, vous devez avoir aussi des familles et peut-être des jeunes lecteurs, parce que vous avez un coin jeunesse aussi.
Oui. Alors c'est assez. Le public, ça va aller des étudiants aux personnes âgées, jusqu'en passant par la famille, effectivement, puisque on développe un coin jeunesse assez important avec des lectures le premier samedi de tous les mois où les familles peuvent venir assister gratuitement à des lectures de découvertes, vraiment de nouveaux albums, de coups de cœur qu'Aurélie anime donc le premier samedi de tous les mois. Donc oui, on a les premiers lecteurs qui sont tout petits, à 6 mois. À 6 mois, ils débarquent pour chercher leur premier livre et puis on les suit le plus longtemps possible. L'adolescence, c'est compliqué, quoi. On les perd généralement à un moment vers 15-16 ans. Il n'y a plus les mêmes centres d'intérêt. On les perd pour la plupart, mais on essaie de les garder le plus longtemps possible.
Et donc là, on a parlé du rayon jeunesse, mais du coup, donc librairie généraliste. Donc alors, qu'est-ce qu'on vend ici Il y a donc, quand on arrive, quand on rentre dans la librairie, il y a tout de suite la littérature française et étrangère qui est mise en avant.
Alors ça, c'était un choix vraiment de François-Xavier et d'Aurélie à la création de la librairie, de mettre la littérature grand format en avant à l'entrée de la librairie, parce que c'est quelque chose qu'on affectionne aussi particulièrement ici. C'est un des points forts de la librairie et puis c'est le rayon sur lequel, avec la jeunesse, on conseille énormément en fait. C'est vraiment ces deux rayons sur lesquels on conseille beaucoup. Après, il y a toute la pochothèque aussi, évidemment, en littérature. On a un coin polar, un coin sciences humaines, histoire, un coin bande dessinée et le coin jeunesse. Puis aussi la vie pratique, la cuisine, les guides de tourisme. Voilà.
Avec combien de références à peu près ?
Il y a 15 000 titres à peu près dans la librairie. Ouais.
Voilà, 15 000 titres. Et pour décrire un peu la librairie, du coup, elle est en deux parties.
Ouais.
Donc il y a des petits recoins quand même, c'est grand, c'est grand quand même. Il y a ouais. Combien de mètres carrés là ?
Entre 100 et 120, je dirais, à peu près. L'origine, il n'y avait qu'une première partie, donc, qui est tout en long, qui mène jusqu'à une petite terrasse au bout du coin jeunesse. Et il y a 4 ans, le local qui était juste à côté de la librairie a fermé. Du coup, on a pu casser les murs et s'agrandir pour pouvoir étaler un peu plus les livres, qu'ils soient un peu moins, un peu moins serrés et que tout soit plus aéré, plus accessible. Enfin, on a gagné vraiment en espace, en visibilité. Du coup, on a une grande vitrine, on a deux vitrines différentes qui donnent sur l'avenue Étienne Billière. Une vitrine sur laquelle on met plus en avant des essais, et puis la vitrine principale où il y a plus de littérature, jeunesse, BD en fait.
Ouais, et là j'ai vu en arrivant aussi qu'il y a une petite palette qui a été changée en étagère, et il y a des livres de voyage avec des petites branches, des voilà, c'est très mignon. Hein.
C'est ça, c'est le coin sur lequel on s'amuse un petit peu, voilà, à Noël. Cette planche a été installée, il y avait plein de plantes, plein de fleurs, c'était une vitrine fleurie pour Noël. Et puis voilà, on a gardé la palette et on change régulièrement. Donc bah ouais, là, c'est les guides de voyage, évidemment, pour l'été.
Donc oui, donc vous avez eu la chance, c'est vrai que tous les libraires font face à des problèmes de place. Là, vous avez pu agrandir et doubler la surface. Mais en plus, vous avez une petite terrasse à l'extérieur qui vous sert aussi pour des animations quand il fait beau.
Oui, ouais, ouais, on essaie... de proposer des choses sur cette petite terrasse. Ouais, c'est une petite cour, c'est pas immense, mais c'est un plus énorme dans la librairie. On organise les lectures dont je vous parlais qui se font quand il fait beau sur la terrasse avec tous les enfants et les parents. Le festival jeunesse qui a lieu en septembre, un printemps au palais aussi au mois de mai, où on essaie voilà, d'amener le lecteur aussi un petit peu à l'extérieur. Ça rend la chose encore plus conviviale et chaleureuse, c'est super. Ouais.
Et est-ce que ça vous arrive aussi de vous bouger, d'aller vendre des livres à l'extérieur ?
Alors ça nous arrive alors sur le Marathon des mots. On est partenaire du festival. En temps normal, il y avait une librairie volante sur la place du Capitole. Cette année, ça n'a pas été le cas à cause de l'euro, de foot,
ouais.
qui occupait un peu la place, et puis de l'état d'urgence où les manifestations sont un peu restreintes. Donc on était quand même dans les lieux où il y avait des lectures. On était à Saint-Pierre-des-Cuisines et le nom m'échappe. Tu m'as retrouvé, je me souviens plus. Et sur un autre lieu. Regarde comment il s'appelle. C'est le
Centre culturel Bellegarde.
Ah, c'est ça. Vas-y. Et le Centre culturel Bellegarde. Donc voilà, on était sur ces deux lieux où on propose donc des... on mettait en avant les livres qui étaient lus pendant ces 3 jours de festival. Ouais.
Et là, du coup, là, on est dans quel coin là ? L'interview, elle se passe
Alors, on est sur des fauteuils installés dans le coin essai. Le coin essai, histoire, où donc, voilà, on va trouver de la sociologie, de la philosophie, de l'histoire, de la psycho, des livres politiques, économiques, écologique, des livres d'art aussi. Il y a tout le rayon d'art, peinture, photo, architecture, qui se trouve ici.
Et des superbes fauteuils sur lesquels on peut s'asseoir pour regarder les livres d'art. Ouais. C'est génial, ça, des fauteuils dans une librairie.
Ouais, on a essayé ça d'en installer. Il y en a ici, puis il y en a en BD aussi, parce que c'est vrai que c'est des endroits où les livres sont assez imposants, donc c'est quand même pas mal de pouvoir s'asseoir pour les feuilleter. Et en jeunesse aussi, il y a des coins où les enfants peuvent s'installer pour lire. Ouais. Riding off into the sunset, fractal matter in the signs of the time, marching in the sunshine.
skies with several stars.
À une reconversion en fait. J'ai voulu me reconvertir, j'avais fait un stage ici, un stage à Terra Nova aussi. Suite à ces stages, voilà, j'ai travaillé un petit peu de temps en temps pour les deux librairies sur des événements particuliers comme le Marathon des mots ou d'autres événements comme ça où ils avaient besoin de mains supplémentaires. Et quand François-Xavier est parti aux États-Unis, bah, du coup, j'ai rejoint Aurélie ici pour faire partie de l'équipe.
Et donc, tu n'étais pas libraire il y a 2-3 ans, quoi. Tu n'étais pas libraire?
Non, pas du tout. J'ai travaillé dans le spectacle vivant pendant pas mal de temps, pendant 8 ans. J'ai travaillé au Théâtre du Grand Rond quand je suis arrivée à Toulouse pendant 5 ans. Et puis après, j'étais chargée de diffusion et de production pour des compagnies de théâtre, de danse, en jeune public et en tout public. C'était passionnant, milieu culturel. C'était un chouette moment dans ma vie. Mais voilà, j'avais envie d'autre chose aussi. J'avais envie d'un contact un peu direct avec les gens, parce que le métier de chargée de diffusion, donc, qui consiste à faire tourner les compagnies de théâtre, donc à vendre les spectacles un peu à droite à gauche, c'est un travail où, au final, on est quand même beaucoup tout seul dans un bureau, à téléphoner ou à être derrière son ordi. Et voilà, j'ai décidé d'arrêter parce que je commençais un petit peu à saturer de ça et j'avais envie de retrouver un contact humain direct.
Et puis bon, le fil conducteur, ça reste quand même le texte. Le texte, ouais, de théâtre, le texte littéraire,
ouais,
qui, voilà, après du coup il se transmet de main en main quand on est libraire. Ouais. Et du coup, donc c'est une expérience de 2 ans là que tu as comme libraire?
Ouais, 2 ans et demi, ouais.
2 ans et demi.
Ouais.
Et alors du coup, pour toi, c'est quoi le métier de libraire? Parce que c'est des questions que je pose tout le temps dans l'émission, parce que c'est vrai que à chaque fois qu'on dit qu'on est libraire à quelqu'un, il y a toujours ce côté « Oh là là, mais c'est chouette, vous devez lire tout le temps ». Et voilà, donc je trouve ça intéressant de poser la question aux libraires pour leur dire, alors c'est quoi être libraire en fait, pour de vrai?
Alors, être libraire, donc non, on ne lit pas toute la journée, ça c'est pas possible, on a plein d'autres choses à faire. Non, pour moi je définirais ça comme, on transmet, on est vraiment dans la transmission de mots, de textes, de rencontres, d'auteurs. En tout cas ici, le métier de libraire se passe essentiellement par le conseil. C'est vraiment la plus grande partie de notre travail et c'est ce qu'on aime faire. C'est pour ça qu'on fait ce métier aussi. C'est parce qu'on est en relation directe avec la clientèle et qu'on leur conseille, qu'on leur parle de ce qu'on a lu et qu'on échange là-dessus. Parce qu'il y a aussi un retour aussi des gens. On a une clientèle fidèle, donc qui prend le temps aussi de nous faire des retours sur les lectures qu'on a pu leur conseiller. Et voilà, donc on échange en permanence avec eux là-dessus. Donc pour moi, oui, dans un premier temps, c'est vraiment ça. C'est la transmission, vraiment. Après, évidemment, ben, le plaisir de découvrir de nouveaux auteurs, de nouvelles maisons d'édition, de nouveaux textes, même si on ne peut pas le faire tout le temps à la librairie, parce que non, on ne peut pas lire tout le temps. On a plein d'autres choses à faire. Mais Donc ouais, ce plaisir-là, évidemment. Et puis après, ouais, tout le quotidien qui est la réception des livres, qui prend pas mal de temps. On est livré ici deux fois par semaine, le mardi et le jeudi. Donc on défait les cartons, on rentre tout dans le stock, on les range dans les rayons. Et puis on est toujours en train de ranger en librairie parce que ça bouge et c'est tant mieux. Si un livre reste figé sur la tranche dans la bibliothèque, il ne se vendra pas, il ne sera pas vu, et c'est dommage, quoi. Donc voilà, ça bouge en permanence et ça c'est super, on est toujours en train de mettre en avant des nouvelles choses et de faire bouger les rayons au maximum. Oui.
Et c'est vrai que libraire aujourd'hui, mais bon, c'est un peu dans l'air du temps de un peu tout décloisonner, de croiser les arts, de faire rentrer le théâtre dans la librairie, de créer des partenariats, d'avoir une politique d'animation qui change, où c'est pas toujours un auteur qui vient parler d'un texte, mais une compagnie de théâtre, ouais. Ou j'en sais rien. Et vous avez du coup des partenariats, vous avez des animations que vous faites avec d'autres personnes ou.
Alors, les animations qu'on fait ici, les rencontres, ce sont des. À chaque fois, c'est de notre initiative, c'est des rencontres qu'on organise parce qu'on a eu un coup de cœur, soit sur un texte, peu importe le texte, en jeunesse, en littérature, peu importe. Après, on va faire appel à des gens, pas forcément pour animer les rencontres, parce que ça, on tient à le faire, ça fait aussi partie de notre métier de transmettre à un plus grand nombre de personnes en direct, en fait. Donc on anime les rencontres, par contre on va faire appel à des comédiens, à des compagnies qui vont pouvoir nous aider dans la transmission, justement. Il y a Sylvie Maury, Alexandra Malfi, Gilles Fossier, qui sont des comédiens toulousains, qui sont venus déjà quelques fois pour animer une rencontre qu'on faisait avec un auteur. Donc il y a des passages qui sont lus par ces comédiens, qui donnent vie au texte. Nous, on n'est pas des comédiennes, donc eux, c'est leur métier, donc on estime que s'il est dit par des comédiens, il aura d'autant plus de poids, de force pour l'écoute, ce sera différent. Donc voilà, à chaque fois, c'est vraiment... moi, étant donné que je viens du milieu du théâtre, j'ai aussi un petit réseau qu'on utilise pour ces animations-là. Et puis après, en dehors des rencontres, on propose aussi à des compagnies qui travaillent sur du texte de venir aussi présenter des choses en lecture, en fait. Hein, tout simplement, c'est des espèces de spectacles lecture. Et ça, notre public aime beaucoup parce que c'est des moments à chaque fois super, assez convivial. C'est souvent un petit peu décalé aussi. Voilà comment amener à la découverte d'un auteur de manière un peu décalée et surtout vers des auteurs vers lesquels, en temps normal, le public ne serait pas allé, en fait. C'est l'idée, oui.
Vous travaillez aussi avec des établissements scolaires, non ? Parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal d'articles de classes qui étaient venues ici, présenter des expos, ou alors participer à des animations.
Alors, en établissement scolaire, on a des commandes régulières de professeurs ou de CDI dans certains collèges ou lycées ou écoles primaires des alentours. Et après, on essaie de développer ça. Donc, il y a une classe de lycée qui a participé à un atelier photo à l'espace Saint-Cyprien en mai dernier. Enfin, ils ont fait ça toute l'année et il y avait un rendu en juin dernier, pardon. Où en fait, il y a un photographe qui les a photographiés pendant qu'eux participaient à cet atelier. Et il y avait une expo après qui était proposée. Donc du coup, ils sont venus exposer ici. On a fait le vernissage de l'expo avec tous les élèves, les parents, les professeurs. C'est des moments où, par exemple, ces jeunes qui n'ont pas forcément l'occasion de pousser la porte de la librairie parce que soit ils n'en ont pas eu forcément l'intérêt ou des fois, on s'imagine que rentrer dans une librairie, tout de suite, il y a des personnes que ça bloque de rentrer dans une librairie. Donc voilà, c'est aussi un moyen de décloisonner, effectivement, et de faire rentrer des gens ici par un autre biais que venir acheter un livre.
Как вы правишь, не что, твой правый не что, за что. Не знаю, но с чаком. Как вы чакаешь, чаком за закуска, твой чак за закуска. Как вы правишь, много, твой правый много, за что. А с чаком, легом, четким, для мега-воя. как вы чакиш за обед, как вы стоитесь, дюнер или папачики, как вы песок, той песок. Кво? А ты? А ты? Ничто. Ничто. Кво? А ты? А ты? Ничто. Ничто. Как Бог правишь, а сыграет, то и играет. Как Бог играешь, играет спрингбол. Спрингбол и глупов. Не, ты си глупов. А ты? А ты? Кафо? Кафо? Ничто. Ничто.
Alors, vous organisez aussi un festival du livre de jeunesse un week-end tous les ans.
Oui, un week-end fin septembre. Donc sur le samedi et le dimanche. Le samedi, on accueille des auteurs ou illustrateurs qui vont à la rencontre donc, de nos plus jeunes lectrices et lecteurs. Si ce sont des auteurs, donc c'est vraiment un échange sur le travail d'écrivain avec les enfants. Et quand ce sont des illustrateurs qui viennent, ils proposent des petits ateliers autour du dessin, de la peinture, du collage. Voilà, on essaie de diversifier au maximum. Là, l'année dernière, par exemple, il y avait une Toulousaine, Juliette Valérie, qui est venue pour son livre Lucille Finemouche, qui est un livre qui met en scène une petite fille qui a ouvert une agence de détective. Et elle a proposé avec sa collègue un atelier d'écriture aux enfants sur le thème donc, de l'enquête, du métier de détective. Et le dimanche, on propose aux enfants donc un thème sur lequel on leur propose d'écrire un court texte. Donc voilà, leurs productions sont préparées à la maison et sont lues devant les autres copains qui participent à l'atelier, enfin au concours, et devant les parents le dimanche sur notre petite terrasse. Et évidemment, tous les enfants sont gagnants, repartent avec des petits lots.
C'est important de le préciser. Voilà. Et donc, il y a un autre rendez-vous qui a lieu tous les ans à la librairie L'Autre Rive. Ça s'appelle Un printemps au palais, rencontre autour de la littérature et de la gastronomie.
Oui, parce qu'on est des grandes gourmandes ici.
Il y a le rayon cuisine aussi, plus la littérature quand on arrive. Donc finalement, on arrive à allier les deux.
Oui, complètement. Et puis en fait, on s'est rendu compte que c'était un mélange qui plaisait aussi beaucoup aux gens. Donc on a pu... l'année dernière, on avait fait venir des auteurs autour du vin naturel, pour le coup. Donc là, on était sortis un peu de la gastronomie pour aller vers le vin. Donc voilà, il y a un auteur qui avait proposé un manifeste sur le vin naturel, donc qui était venu présenter ça. Cette année, là, en 2016, on a eu deux auteurs, l'un d'un livre qui s'appelle « Les gastronomes de l'extrême ». Qui est un recueil, on va dire une petite anthologie de recettes issues de... que l'auteur est allé piocher parmi les récits de grands voyageurs, en fait. Donc des recettes assez farfelues, qu'on n'a pas vraiment envie de goûter, en fait. Parce que
Et les biscuits aux asticots des pirates, ou pas?
Ouais, ce genre de choses, ouais, c'était un peu ça. Et puis il y avait aussi Mayalen Zubi-Yaga, qui a écrit un petit bouquin aux éditions Les Pures, qui s'appelle « L'art de saucer ». Voilà, sur le plaisir, alors que c'est complètement...
C'est peut-être pas très poli.
Voilà, complètement mal vu en société, ce geste-là, mais qui nous parle du plaisir de saucer, par exemple, sa salade de tomates, le jus de tomate et l'huile d'olive, voilà, le plaisir de saucer ça. Donc voilà, on propose ça à nos lecteurs, et l'idée, c'est qu'il y a aussi un petit buffet où on a des dégustations. Donc là, cette année, c'est Aurélie qui a tout préparé. Mais après, les autres années, on avait aussi fait participer des restaurateurs ou des commerçants du quartier aussi, qui nous avaient préparé des buffets, en fait.
Et aussi, on va rappeler le premier samedi de chaque mois, c'est ça, le matin ?
Oui, à 11h, Aurélie lit 3 histoires aux enfants. Donc c'est pour les enfants de 2-3 ans jusqu'à 7-8 ans, on va dire. Il n'y a pas d'inscription, c'est gratuit. Vous venez. Alors, il y a même certaines personnes qui nous laissent leurs enfants et qui vont au café à côté. Quand ils sont grands, hein, on ne garde pas les tout petits. Mais voilà, c'est un temps super, super sympa, où on fait découvrir des coups de cœur, des nouveautés, puis dans des styles aussi différents. Ouais.
Et maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un petit tour de la librairie, peut-être, pour que les auditeurs aient une idée un peu de comment ça se passe ici, qu'est-ce qu'on vend. Et puis du coup, dès qu'un titre t'interpelle, parce que bon, j'imagine que tu les connais quand même un peu, tu m'en parles, comme ça on fait des petits conseils à nos auditeurs.
Alors là, on est donc dans le rayon littérature, à l'entrée de la librairie, la littérature en grand format. Donc les nouveautés de cette dernière année, on va dire, qui sont mises en avant, à plat. Donc ça, on essaie au maximum d'avoir les livres à plat, parce que c'est comme ça qu'ils sont vus, c'est comme ça que les gens les manipulent facilement. Voilà, dès qu'ils sont sur des présentoirs ou dès qu'ils sont sur la tranche dans des bibliothèques, ça complique un peu les choses. Donc c'est vrai qu'on essaie d'avoir le maximum d'espace à plat pour que les gens puissent prendre et ouvrir des livres à leur guise. Plein de coups de cœur, évidemment, là, dans cet endroit-là. Dans le cadre du Marathon des mots, justement, on avait reçu Olivier Bourdeau avec En attendant Bojangles, qui est un roman dont on a beaucoup entendu parler, qui a été beaucoup médiatisé, mais qu'on a beaucoup aimé aussi à la lecture. Voilà, une petite pépite qui fait du bien, qui est fantaisiste, mais pas que, aussi. Il y a une auteure que j'ai découvert moi cette année, que j'avais jamais lu, qui s'appelle Julia Carninon, avec un livre publié à la Brune du Rouergue qui s'appelle Le dernier amour d'Attila Kiss, qui se passe en Hongrie. On n'a pas d'habitude de lire des romans qui se passent en Hongrie, qui est superbe, sur une histoire d'amour, mais pas une histoire d'amour conventionnelle. On est sur l'amour guerrier, d'où le Attila. Ça, c'était très très bien. Arnaud Catherine, on est sur un recueil de nouvelles. Alors la nouvelle, c'est pas évident parce qu'on a peu l'habitude en France de lire des nouvelles, alors que c'est un style qui se fait beaucoup aux États-Unis. Mais celui-ci s'appelle Pas exactement l'amour. On est un peu sur la même thématique que Julia Carninon, puisque ce sont des nouvelles qui tournent vraiment autour du sentiment amoureux, que ce soit la passion amoureuse, l'après, le deuil amoureux. Et c'est écrit avec beaucoup de minutie et de poésie. C'était très bien. Voilà, après là, on a le rayon en littérature. Alors, on n'a pas de littérature en version originale. Toute la littérature étrangère qu'on a, elle est traduite en français. On a pas mal de demandes ici pour de la littérature en VO, mais voilà, c'est un peu compliqué parce que ce sont des distributeurs avec qui on ne travaille pas. Donc, à mettre en place, c'est un petit peu compliqué. Donc, on renvoie chez les copains, que ce soit à Terra Nova, qui, eux, font de la littérature en VO, en italien et en espagnol. Et pour tout ce qui est littérature en anglais, on renvoie chez The Bookshop, rue Lacanal, aussi.
Ah, je ne connais pas.
Ouais, c'est une petite librairie. Eux travaillent avec les distributeurs anglais, donc même s'ils n'ont pas en librairie, ils peuvent facilement commander un livre en anglais.
D'accord.
Donc, ouais. On essaie de faire circuler aussi les...
Les informations entre
les
libraires.
Les informations entre libraires, ben oui, de faire du réseau entre nous, parce qu'on est... On n'est pas en concurrence, en fait, il faut juste faire tourner le réseau. C'est pareil en rayon théâtre. Nous, on a minuscule rayon théâtre parce qu'on n'a pas la place. Donc, on va avoir beaucoup de classiques ou des grands noms en théâtre. Mais après, oui, on renvoie souvent à Les Beaux-Jours aussi pour ce qui est du théâtre. Parce qu'on ne peut pas tout avoir. Donc, si les copains ont, c'est très bien, on envoie chez eux.
Très bien.
C'est pas mal. Ah ben oui, ça, c'était super. Dans la littérature étrangère, William Boyd, qui est un de mes chouchous, Les vies multiples d'Amory Clay, qui nous raconte l'histoire de cette femme, Amory Clay, au début du XXe siècle, qui est née dans un milieu plutôt bourgeois, et qui, contre toute attente, veut devenir photographe, qui va être initiée à la photo par son oncle, qui fait de la photo, mais de la photo de mode mondaine dont elle se lasse assez facilement. Et elle va partir à Berlin photographier le Berlin Underground des années 30 et finalement devenir photo-reporter pendant la Seconde Guerre mondiale puis pendant la guerre du Vietnam. Et alors ça, les auditeurs ne le voient pas, mais le roman est illustré par des photos, voilà, par des vieilles photos en noir et blanc signées par Amaury Clay. Sauf que quand on va chercher un petit peu plus loin, parce que moi je me suis dit, mais qui c'est Amaury Clay? Parce que dans le roman, elle côtoie quand même des grands noms de la photo qui eux ont existé. Et en fait, c'est un personnage de fiction que William Boyd a complètement inventé.
Donc les photos, pareil, elles viennent de...
Ouais. Alors là, pour la petite anecdote, visiblement, il a trouvé, alors qu'un jour qu'il attendait le bus, il a trouvé à l'arrêt de bus une photo ancienne par terre. Il a ramassé cette photo et ça lui a donné envie d'écrire une histoire à partir de là. Donc toutes les photos qui sont dans le livre ne sont pas du tout d'Amaury Clay, ce sont des photos qu'il est allé piocher un petit peu à droite à gauche en fait, mais qui illustrent parfaitement ce roman qui est super, très très bien.
On va en jeunesse ?
Allez, on va en jeunesse.
Là on passe par les poches.
Voilà, la pochothèque, une table pour la littérature française, une autre pour la littérature étrangère. Et nous voilà en jeunesse. La jeunesse, elle est répartie en deux espaces, on va dire. Il y a un petit coin vraiment pour les petits. Et puis après, le coin plus pré-ado, ado, dans lequel il y a aussi la BD jeunesse. Il y a un petit espace aussi avec des jeux. L'école des loisirs, depuis quelques mois, a créé des jeux autour de grandes figures de littérature jeunesse. Donc il y a Cornebidouille, il y a Simon le lapin, enfin voilà, il y a tout ça, et c'est très sympa, ça marche très bien ces petits jeux. Et donc là, il y a plein de pépites, hein, évidemment. Évidemment, plein de coups de cœur, on en parlait tout à l'heure, là, le dernier en date qui s'appelle « Je suis la méduse » de Béatrice Fontanelle et Alexandra Huard, qui est un album aux fourmis rouges. Alors là, si vous ne connaissez pas cette maison d'édition, allez voir un peu ce qu'ils font de plus près, parce que c'est souvent des petites pépites. Et Je suis la méduse, voilà, c'est la méduse qui parle. On est entre le documentaire et le récit. Et elle va nous décrire un peu son quotidien, cette méduse. Et puis, une histoire de rencontre avec une petite fille. Mais quand on rencontre une méduse, ça fait mal, souvent. Hein. C'est jamais très agréable.
Ou est-ce que ça finit bien ?
Ça finit bien, oui.
Bon, alors ça va.
Là, on a un petit rayon, enfin, un petit rayon. C'est comment on agence aussi les livres en librairie. En ce moment, c'est un hasard, mais lui non, mais les autres, là, il y a beaucoup de livres autour de la maison, de l'habitation. Et donc voilà, on les a là réunis. Ce sont des albums assez récents. Il y en a un qui s'appelle Chez nous, de Carlson Ellis, un autre qui s'appelle Chez moi, de David Cali avec Sébastien Mourin à l'illustration, un autre qui s'appelle Et toi, où habites-tu ? Voilà, ce sont à chaque fois des albums très, très recherchés au niveau graphique. Les illustrations sont super. On aime beaucoup ça aussi. Et puis en littérature, après, là, pour les plus grands, mais comme je disais tout à l'heure, c'est pas facile hein, de garder un lectorat d'ado. Soit ils s'échappent assez vite vers la littérature adulte, et tant mieux, ils vont partir vers d'autres choses. Soit ouais, on les perd à un moment donné, alors qu'il y a quand même des pépites aussi en littérature jeunesse. Le dernier en date, c'est ça, c'est Marie-Aude Muraille, donc, qui a écrit quand même déjà un sacré nombre de romans jeunesse. Sauveur et fils, saison 1, écrit un peu à la manière d'une série, mais c'est addictif comme une série, vraiment, quand on commence à lire ça.
Alors, c'est un cochon d'Inde dans une baignoire sur la couverture.
Voilà, c'est ça, qui nous raconte l'histoire d'un psy et de ses patients. C'est un psychologue pour enfants, donc on va suivre l'histoire de chacun de ses patients. Et alors, le hamster, pour la petite histoire, c'est parce qu'il il s'appelle Sauveur, ce psychologue, et il distribue des hamsters à ses patients à la fin des séances. Voilà, c'est super, ça c'est une petite pépite, hein. C'est génial, c'est intelligent, hein. C'est très chouette. Hein. On continue.
On peut se faire un dernier petit conseil, ouais.
Allez, un dernier petit conseil. En BD ?
Allez, en BD.
Alors là, on passe par la cuisine.
Il y a des CD aussi à l'autre rive.
Ouais, d'Harmonia Mundi, qui nous fait une sélection. Alors, en BD. Ah ben il y en a plein là, il y en a plein qu'on a envie de conseiller. Catherine Maurice, moi je dirais quand même là, dans mes derniers coups de cœur, La légèreté publiée chez Dargo, qui revient post-attentat chez Charlie Hebdo, et qui nous raconte comment sa rencontre, enfin c'est pas une rencontre parce que ça fait déjà très longtemps que Catherine Meurice est en lien intime avec l'art, mais voilà comment l'art l'a sauvée vraiment. C'est, elle fait une résidence en fait à la Villa Médicis et elle raconte un peu toute cette expérience. C'est super, c'est très très beau, très touchant, écrit avec une grande justesse.
Merci Céline pour tous ces conseils. Et là, je regarde, il y a aussi Macaroni, c'est marrant, je l'avais vu, c'est chez
ouais.
Terre de Légende, ça, ils ont bien aimé aussi.
Ouais.
Et Juliette, Camille Jourdi.
Juliette aussi, ouais, qu'on a beaucoup aimé de Camille Jourdi. C'est tout simple. Il y a beaucoup de choses en BD qui sont simples, je trouve, qui racontent du quotidien, où voilà, il ne se passe rien d'exceptionnel, mais voilà, ça touche à de l'intime, ça touche à quelque chose de juste, et du coup ça nous parle en fait. Il y a une BD comme ça qui s'appelle Les Beaux Étés, qui remonte le temps. La première c'était 1973 je crois, là le deuxième tome c'est 1969, et on suit une histoire de famille en fait, avant chaque départ en vacances et puis pendant les vacances. C'est tout simple, mais c'est super.
Et ça, Les Beaux Étés, c'est de Zidrou et Jordi Lafèbre, et c'est chez Dargo.
C'est chez Dargo, ouais, tout à fait.
On va se quitter sur un dernier morceau de musique.
Somewhere lost in the middle of everything. A wooden ranch waits for time. Against a dried out rainbow, pitying the broken stones of age. bad.